parole naît du silence, et inversement, dirait l'historien du sensible Alain Corbin, le silence est ce qui fait battre le cœur du sens et garantit le repos de la pensée entre ses éléments, ajoute le poète Philippe Beck, poésie et silence donc.
Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à minuit. Alain Corbin, Philippe Beck, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Bonsoir. Philippe Beck, vous êtes poète, théoricien, traducteur parfois, maître de conférences en philosophie à l'Université de Nantes, président de la commission de poésie du CNL, ex-président de la commission de poésie du CNL, grand prix de poésie de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre, ça c'était en 2015, on citera Chambre à roman fusible en 1997, Poésie didactique en 2001, Chant populaire en 2007, qui entreprenait la réécriture versifié de contes de Grimm, on y reviendra bien sûr, et opéradique au pluriel, ouvrage monstre s'il en est, paru en 2014 chez Flammarion, une brèche en vers dans les arts et la vitalité de leurs conflits, musique, peinture, prose, poésie bien sûr, auteur mais aussi sujet, Philippe Beck, ou motif. Un colloque à Cerisy vous a été consacré il y a peu, le numéro 60 de la revue Nu également, et une réflexion de lecteur, doublé d'un dialogue avec vous, mené par le philosophe Jacques Rancière, vient de paraître sous le titre de « Le sillon du poème » en lisant Philippe Beck, et c'est aux éditions Nous. Avant d'en venir justement à ce livre-là, peut-être un mot sur ce terme de « sillon » qui a son importance pour Rancière comme lecteur, mais qui a son importance pour vous, Philippe Beck.
Oui, puisque le vers est un sillon. Ou plutôt le vers se pense comme sillon. Je crois que Rancière avait en tête quelque chose de précis, il me semble. Enfin, je m'en suis aperçu après coup. Il pense au sillon de la lecture, c'est-à-dire à l'acte de la lecture en tant qu'elle suit ce qui est à lire, le vers, mais en tant que la lecture elle-même constitue, crée un sillon propre. Je crois que Rancière tient beaucoup à cette idée que l'acte de la lecture est un acte créateur. Donc il y a dans ce livre deux sillons superposés où on risque de confondre les deux sillons. Mais...
Est-ce que votre sillon à vous, ça serait quoi? Ça serait un sillon qui serait une intervention au sens physique du terme en creux?
Je compare le poète à un bœuf avec toute la pesanteur propre au bœuf.
Et au sillon.
Et au sillon qui subit le bœuf. Néanmoins, dans le sillon, quelque chose peut fleurir ou germer. Sans ce sillon, sans ce tracé dans la terre du langage, aucune langue, aucun langage ne peut vivre en réalité. Si bien que la prose ordinaire, qui oublie les sillons qui l'ont rendu possible, cette prose ne pourrait tout simplement, ces proses ne pourraient tout simplement pas vivre. Et c'est pourquoi je tiens beaucoup à dire et à redire qu'il n'y a pas de prose sans idée de la poésie, ce qui ne veut pas dire que les proses soient des poèmes nécessairement. Mais lorsque nous parlons, nous avons tous, je crois, à notre insu ou non, nous avons tous en tête ou dans le cœur une idée du poème possible, c'est-à-dire du langage parfait ou exact et vivant, c'est-à-dire se constituant, se créant à mesure qu'il pense ce qui est à penser.
Sans le silence non plus, pas de langage, évidemment. Alain Corbin, vous êtes historien du sensible, historien du sensible, le sensible au XIXe siècle en particulier. Il y a notamment eu l'odorat, la perception du temps qu'il fait, la jouissance, la virilité, les armes, la prostitution. Et vous signez aujourd'hui donc une brève histoire du silence de la Renaissance à nos jours, chez Albin Michel, en 7 chapitres, un prélude, postlude, un interlude entre enquête et répertoire qui donnent tout autant la parole au silence qu'à ceux qui en ont parlé, en premier lieu desquels les écrivains, les poètes, les philosophes, les théologiens, évidemment. Il y a là comme une sorte de communauté persistante qui traverse tout ce texte. Je pense à Saint-Exupéry, Péguy, Vigny, Hugo, Bernanos, beaucoup, Gracq, Maeterlinck, Proust, Huysmans, Claudel, Mallarmé, très furtivement, Flaubert, lu par Genette notamment, mais aussi Bossuet, et bien sûr, les évangiles. Le relevé balaie les gammes, les textures, les natures, les valeurs, les lieux de silence, son lien avec la nature, ses quêtes, ses apprentissages, tant le silence, évidemment, ne va pas de soi. Ses vertus, ses tactiques sociales, ses prises de parole, notamment en peinture, avant de conclure sur son tragique, et j'allais oublier bien sûr le silence qu'impose la profondeur de l'amour, mais ça allait de soi. De la Renaissance à nos jours, annoncez-vous Alain Corbin, il y a du débord bien sûr, mais qu'est-ce qui se joue avec cette balise-là pour que vous en fassiez le seuil inaugural de votre histoire du silence? Avec quoi ou comment est-ce qu'on entre dans une forme de modernité du silence, Alain Corbin?
C'est un livre d'histoire, c'est-à-dire qui pose comme hypothèse que le silence n'est pas le même, n'est pas ressenti de la même façon. Ces textures ne sont pas appréciées de la même façon selon les temps. Alors, en toute logique, il faudrait commencer, me semble-t-il, par les pères du désert, par le début du christianisme. Mais pour ça, il faut être vraiment compétent. Donc, puisque vous parlez de balises, il me semble que la fin du XVIe et le XVIIe siècle sont des grands moments d'analyse, d'injonction de silence. Et ça me permettrait d'illustrer mieux que je ne l'ai fait dans le livre, justement, cette historicité du silence. Parce que je suis parti, il y a une vingtaine d'années, de l'œuvre de Chateaubriand, disons sa dernière d'ailleurs, Vie de Rancé. Rancé, donc le grand réformateur de la trappe de Soligny. Et lorsque son directeur de conscience a demandé à Chateaubriand d'aller étudier les silences, justement, de la prière de l'abbé de Rancé, Chateaubriand, qui était un romantique, était habitué au bruit de la mer, de la forêt américaine, du vent dans les cheveux, que sais-je encore, Chateaubriand le trouvait trop dur, ce silence du XVIIe. Et quand il est arrivé à Soligny, il a cherché le silence de la nature, il a cherché le silence de l'étang. Est-ce que je peux reconstituer le silence de cet étang au XVIIe siècle? Vous voyez, c'est ce genre de quête qu'il menait. Mais c'était un homme qui non seulement avait un autre code esthétique, celui du sublime, quoi, pour faire vite, mais en plus de ça avait vécu la Révolution, s'écrit, ah bon. Alors cette plongée dans le silence de Soligny, il a bien compris que c'était historique, que c'était vraiment pas le même silence, qu'il y avait une histoire de silence, et il indique d'autres lieux. Deux autres lieux, l'Escurial, et effectivement, quand on va à l'Escurial, on le ressent aussi. Et puis, Port-Royal qui est détruit.
Alors justement, si ce silence, ou en tout cas ce ressenti de silence, Alain Corbin, s'historicise, est-ce que ça veut dire que ça interdirait une définition possible de votre objet?
Oui, peut-être, parce que la façon de le vivre, de le ressentir, évidemment, comme je le répète, est historicisée.
Je sais, Alain Corbin, que vous n'êtes pas adepte du tout de l'ego-histoire, et pourtant, page 121, vous glissez dans le chapitre qui s'attarde sur le silence qu'impose la peinture, une expérience personnelle.
Ah oui.
Devant des pommes de Cézanne, dans une salle du musée d'Harvard. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous devant ces tableaux pour que vous preniez exceptionnellement la parole au jeu? Qu'est-ce qui vous y a autorisé, justement, cette fois?
Je ne sais pas. J'ai eu deux expériences, finalement, qui seront, peuvent paraître étonnantes par rapport à l'adoration perpétuelle, etc., que j'ai pratiquée, qui était un silence dans l'enfance. C'est cette expérience du musée d'Harvard. Mais le silence de la pièce, peu à peu, s'est imposé face au silence de ces peintures que je connaissais en reproduction. Mais c'est pas la même chose. Peu à peu, j'ai ressenti quelque chose. Voilà, parce que vous parliez d'ego-histoire que je n'aime pas beaucoup. J'ai eu aussi une autre expérience attendant à 5h du matin dans le bocage du Cotentin, du Sud-Cotentin, attendant un autobus. Quand j'avais 23-24 ans, je venais de passer le concours pour être professeur. J'étais arrivé trop tôt, vers 5h30, 6h le matin. Et il y a une vache qui venait me voir, mais dans un silence complet. C'est pas, elle n'a pas bugué, etc. J'étais accoudé à la barrière, on s'est regardé. Et j'ai ressenti le silence de cette bête, quoi, je ne peux pas dire. Ce qui m'impressionne un peu aujourd'hui, c'est que je ne l'ai jamais oublié. C'est-à-dire que ça fait quand même 60 ans.
Philippe Beck.
Je suis plutôt enclin à, pour employer une de vos expressions, à ne pas surestimer la rareté de la parole. Donc j'ai une méfiance à l'égard de toutes les mystiques du silence, et ce n'est pas que je surestime le langage, mais plutôt tendance à prendre la défense du langage contre les mystiques poétiques et autres. Mais à part ça, je suis comme tout le monde, j'ai pu m'apercevoir de la difficulté d'accepter le silence, et notamment la nuit, quand on vient de la ville et qu'on dort dans un lit à la campagne. Et je me rappelle un silence difficile à accepter.
À la différence de ce que vous venez de dire, Philippe Beck, le silence, en tout cas pour Alain Corbin, au départ, dans le prélude, vous le décrivez comme la condition du recueillement, de l'écoute de soi, de la méditation, de l'oraison, de la rêverie, de la création, et surtout comme le lieu intérieur d'où précisément la parole émerge, donc des valeurs plutôt positives, créatrices en tout cas, et qui semblent, en tout cas dans vos mots à vous, poser d'emblée l'idée d'une perte, peut-être d'une forme de nostalgie. Est-ce que vous auriez pu entreprendre une telle enquête, Alain Corbin, à vos débuts, il y a longtemps? Ou est-ce qu'il y a un moment pour écrire une histoire du silence?
Sans doute, parce que d'abord, c'était un objet qui était impossible de présenter dans l'université. Et puis c'est vrai que, tout le monde le dit, le problème de la réminiscence, du choc mémoriel, etc., avec l'âge, on se souvient un peu de l'enfance, et je me suis aperçu que j'avais vécu vraiment une enfance de silence. Par la réminiscence, assez logiquement, on peut se dire, tiens, sans faire de l'égo-histoire, mais qu'il y a là un objet d'histoire, voilà.
On l'a dit tout à l'heure, Alain Corbin, la parole est aux écrivains, aux écrivains, aux poètes, aux philosophes aussi, dans votre ouvrage, au XIXe siècle en particulier, et au début du XXe, on y reviendra. Et l'architecture du livre, elle, s'en remet à la musique, puisqu'il y a prélude, interlude, postlude, et pourtant silence, ou presque, sur la musique, oui, que vous évoquez très furtivement en citant Pascal Quignard, notamment « Tous les matins du monde » et le vœu de silence de Monsieur de Sainte-Colombe. Pourquoi est-ce qu'il était indispensable de s'appuyer d'abord et surtout sur les poètes, sur les écrivains, pour construire cette histoire?
Oui, j'ai parlé de l'incompétence à propos des pères du désert. Je me trouve dans la même situation par rapport à la musique, face aux musiciens qui savent lire les portées vraiment très, avec l'indication de silence, etc., qui peuvent réfléchir à ce qui est dans leur propre pratique, la présence du silence, vous voyez. Donc, alors que la peinture, je pense que ça a été bien développé par Marc Fumaroli, ça, que la peinture du XVIIe siècle est une peinture de silence, on le ressent avec plus de facilité quand on a été élevé comme j'ai été, quand proximité de Bossuet aussi, qui est très importante pour moi. Bossuet venait assez souvent dans j'allais dire chez ma grand-mère, dans le village de ma grand-mère. Il y a d'ailleurs une plaque dans l'église, et il logeait dans la maison familiale, si vous voulez. Et donc, j'aime beaucoup la langue de Bossuet. Pour moi, si le soir j'ai besoin d'un livre de chevet, etc., un panégyrique de Bossuet, c'est ce qui me vient le plus naturellement à l'esprit. Donc, c'est peut-être pas de la poésie, encore que, je sais pas ce que Philippe Beck en pense, mais pour moi, c'est quand même une forme de poésie assez intense, que les panégyriques sur Joseph que je cite, et le serment sur la mort, des choses comme ça.
C'est toujours très drôle, Bossuet. Mais moi, je lirais plutôt Joubert, que vous citez,
oui aussi, qui est un
écrivain extraordinaire, proche de Chateaubriand.
Oui, pour ce qui est, c'est un des premiers. J'ai ailleurs, dans notre livre, cité longuement un texte sur la pluie.
Oui.
La pluie, selon Schubert. C'est absolument admirable, effectivement.
Oui, mais je l'ai là, ce texte. Vous voyez le hasard objectif.
Vous voulez nous le lire, peut-être nous en lire un passage.
Prochain livre.
Je l'ai cité dans le livre.
Je ne sais pas si c'est le même, peut-être, puisqu'il en a écrit plusieurs sur la pluie. Ah oui, bon. Il est question du silence, c'est ce passage.
Je ne me souviens plus bien.
Vous voulez que je lise ?
Avec plaisir.
Sans l'accompagnement du chant de la cigale, le tremblotement de l'air, en été, au soleil et pendant la grande chaleur, est comme une danse sans musique. Il y a, pendant la pluie, une certaine obscurité qui allonge tous les objets. Elle cause d'ailleurs, par la disposition où elle oblige notre corps à se placer, une sorte de recueillement qui rend l'âme plus sensible. Le bruit qu'elle produit, en occupant continuellement l'oreille, éveille l'attention et la tient en haleine. L'espèce de teinte brune qu'elle donne aux murailles, aux arbres, aux rochers, ajoute encore à l'impression causée par ces objets. Enfin, la solitude et le silence qu'elle étale autour du voyageur, en obligeant les animaux et les hommes à se taire et à se tenir à l'abri, achève de rendre pour lui les sensations plus distinctes. Enveloppé dans son manteau, la tête recouverte et cheminant dans des sentiers déserts, il est frappé de tout, et tout est agrandi devant son imagination ou ses yeux. Les ruisseaux sont enflés, les herbes plus épaisses, les minéraux plus apparents, le ciel est plus près de la terre et tous les objets, renfermés dans un horizon plus étroit, semblent avoir plus de place et plus d'importance. Les odeurs sont comme les âmes de fleurs, elles peuvent être sensibles dans le pays même des ombres.
Merci. Je n'ai pas cité ce texte.
Qui est ce texte, pardon ?
De Joubert.
Oui, bien sûr.
Joseph Joubert.
Dans les carnets.
Dans les carnets.
1796, je crois, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas cité parce que je l'avais cité dans un ouvrage collectif de chez Flammarion intitulé « La pluie, le soleil et le vent ». Et je m'étais chargé de la pluie.
Sur le ressenti du temps qu'il fait.
Oui, c'est splendide.
Alain Corbin, vous l'avez évoqué là juste à l'instant, au centre très exactement de votre ouvrage, l'interlude, donc Joseph et Nazareth ou l'absolu silence, qui est un bref chapitre, très très court, la figure de Joseph, absolument muette, pas un mot dans les quatre évangiles, son silence, écrivez-vous, est dépassement de la parole. Pourquoi fallait-il le placer là, au centre, comme pivot? De quoi est-ce qu'il se charge justement dans la progression de votre histoire?
Tout d'abord parce que c'est vraiment un bloc de silence. Et que ce silence irradie. C'est bien ce que Charles de Foucault avait perçu, c'est-à-dire qu'il représente le silence de Nazareth, qui dépasse sa propre personne. Puisqu'on n'a aucune parole de Jésus avant ses 30 ans, et les écrits spirituels de Charles de Foucault, sans doute bien oubliés, sont très intéressants dans ce domaine, dans la mesure où il dit « Je veux vivre une vie de Nazareth », c'est-à-dire « Je veux vivre une vie de silence ». Et c'est donc un engagement total sur le silence. Et quand j'étais en école primaire, le directeur avait fait venir un conférencier, Monsieur Poirier, qui venait de réaliser un film sur Charles de Foucault. Et ce film, qui doit dater donc, ce dont je parle, c'est 1942-3 peut-être, est intitulé « L'appel, non pas du désert », c'est ce qu'on attend pour Charles de Foucault, « L'appel du désert », non, « L'appel du silence ». Et ça aussi, ça m'a évidemment un peu marqué. Et je pense que quand on voit la tour du XVIIe siècle représentant Joseph, que je ne vois pas comment on pourrait trouver un bloc de silence supérieur à celui-là. Donc, j'ai pensé que c'était pas mal de lui consacrer une sorte de, je sais pas comment dire, interlude, quoi. Je sais pas. Voilà. Je pense que j'ai bien répondu à votre question.
parfaitement bien. Vous relevez, Alain Corbin, le silence comme condition nécessaire aussi de toute relation avec Dieu. L'idée d'un Dieu caché qui se tairait, hein, ou d'une parole de Dieu qui serait silence. Autrement dit, Dieu parlerait surtout quand il se tait. Et au XXe siècle, écrivez-vous, quand monte l'incroyance, le silence de Dieu et l'incompréhension, le doute, la souffrance, la colère qu'il suscite s'estompe dans la littérature. Que devient, au fond, le silence dans la poésie du XXe siècle?
Il y a un article dont je me suis servi, de Stéphane Michaud, tout à fait consacré à ça, c'est-à-dire le silence dans la littérature. Il choisit De Guy,
Bonne foi et
Celan. Celan, hein. Et il remarque que, bon, ils n'ont pas l'air de s'intéresser à cet aspect. Et je le contredis en disant que Jacotet contredit complètement cette lecture.
Philippe Bec, est-ce que vous risqueriez à une réponse justement sur ce sujet, sur ce que devient le silence dans la poésie du XXe siècle?
Il est bien plus présent que les poètes ou les poèmes ne le pensent. Toujours, hein. C'est le propre du silence, c'est qu'il est toujours là. Il est entre les mots, il est entre les lettres même. C'est en ce sens d'ailleurs que le langage est très proche de la musique, puisque la musique est constituée de silence, mais le langage lui-même. Mais s'agissant du silence de Dieu, c'est un passage qui m'a frappé dans votre livre. Je n'ai pas pu ne pas penser à quelque chose que j'ai essayé dans Chant populaire, qui était de dire ça. Et alors, Rancière...
Chant populaire, peut-être qu'il faudrait rappeler, donc à partir des contes de Grimm.
Des contes de Grimm. Alors, évidemment, quand on pense au Grimm, on ne pense pas nécessairement au problème de Dieu. Et pourtant, il est constant. Alors, j'ai synthétisé ce problème du silence de Dieu sous la forme d'un vers qui a suscité jusqu'à un certain point l'ironie de Rancière. C'était pronom personnel à une absence. Pour lui, c'était le résumé le plus cinglant du constat de la mort de Dieu. Non, pour moi, c'était pas ça. Il n'est pas là, pronom personnel à une absence. C'est simplement le fait que dans un conte en particulier, sa présence soit la présence d'un silence. Et rien que d'un silence. Mais le silence qui est là entre les mots toujours à les rendre possibles, celui-là est passionnant. La méfiance dont je parlais tout à l'heure, c'est la méfiance à l'égard de ce que j'ai appelé rapidement une mystique, même si je sais que vous évoquez les textes des mystiques qui sont très passionnants. C'est la méfiance à l'égard d'une mystique qui se contente d'une définition très pauvre du silence et qui déprécie le langage. Parce que déprécier le langage, il n'y a rien de plus facile, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup une phrase de Walter Benjamin qui dit que la seule perfection dont nous disposions, c'est le langage. C'est une phrase surprenante. Mais il ne faut pas l'entendre au sens où le langage serait le contraire du silence, mais au sens où il serait tissu de silence. À chaque instant, il a à la fois à lutter contre le silence et à se déterminer aussi, non, je ne dirais pas comme silence, mais en tant que le silence fait tout le drame du sens que nos phrases essayent de dire. Et vous citez Blanchot dans votre livre, j'ai noté cette phrase. Seul le silence détient le sens éparpillé à travers les mots. Dire ça, ça n'est pas dire du mal du langage et opposer simplement le silence et le langage. Vous comprenez? Oui, et la phrase de Quignard, le langage n'est pas notre patrie, en ce sens, ne me convient pas du tout. Pourquoi le langage ne serait-il pas notre patrie, si le langage lui-même est constitué de silence? Vous voyez ce que je veux dire?
Ça n'est pas un écrivain ou un poète du silence que vous avez demandé à entendre, Alain Corbin. C'est une voix en musique, et cette voix, c'est celle-ci.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux.
La voix de Georges Brassens, bien sûr, auprès de mon arbre, 1955. Comment trahir sa condition, éventuellement. Qui entendez-vous, Alain Corbin, dans cette chanson, l'arbre ou la trahison?
Plusieurs choses. D'abord, les souvenirs, parce que c'est ma génération. Vraiment, Brassens, pour moi, c'était... Et vous parlez de 1955, ça colle exactement. Deuxièmement, j'ai travaillé sur l'arbre, donc c'était aussi une...
Ça s'appelait La douceur de l'ombre, l'arbre, source d'émotion de l'Antiquité
donc,
à nos jours.
Il y a ça. Et puis, peut-être aussi l'idée que, pour les romantiques, hein, du début du 19e, l'arbre... Et le silence, il y a quelque chose qui... on parlera peut-être de la harpe éolienne, qui n'est pas le silence, mais la façon dont Victor Hugo interpelle les arbres, les écoute, etc. Tout ça, ça m'évoque, hein, si vous voulez, quelque chose de silence. Alors évidemment, il y a des choses qui m'évoquent plus nettement. Par exemple, un quatuor de Beethoven, deuxième mouvement du 14e, par exemple. Mais il me semblait que dans une émission nocturne, mettre un petit peu de, un petit peu de Brassens.
Vous avez voilà, très bien fait.
C'est tout.
Quel pourrait être le point de jonction entre l'histoire du silence et celle des arbres? Je m'adresse peut-être aussi à Philippe Beck. Parce que par ailleurs, vous avez une référence assez commune sur autour de Soro, justement, que vous citez Alain Corbin abondamment dans le chapitre qui concerne le silence et la nature, bien sûr. Philippe Beck.
Oui, Alain Corbin cite une phrase merveilleuse de Soro. L'âme humaine est une harpe silencieuse. C'est l'une des phrases que vous citez, vous en citez d'autres. Il y en a une que j'aime moins de Thoreau, qui me semble justement contestable, mais justement digne d'être contestée. Le silence seul est digne d'être entendu. Pourquoi le silence seul? Voilà. Bon, je conteste aussi des choses de Thoreau que j'admire beaucoup. L'âme humaine est une harpe silencieuse. Ça donne beaucoup à penser.
Contester tout ce qui exclut, ouais. Somme toute. Qu'est-ce qui pourrait vous lier, Philippe Beck, à Soro, justement?
Mais cette idée-là, elle me fait penser, évidemment, cette idée que l'âme humaine soit une harpe silencieuse, ça me fait irrésistiblement penser à Mallarmé, dont vous parlez peu, effectivement, qui avait plutôt une défiance à l'égard de l'avare silence, hein, que vous citez, dans le toast funèbre à Théophile Gautier. Et quand Mallarmé dit que l'âme humaine est un nœud rythmique, il insiste sur la musique de l'âme. Donc ici, clairement, Thoreau pense qu'il y a une musique du silence. Et cette musique du silence, là, oui, il faut l'entendre. Ce grand texte du silence dont parle Joubert aussi, que vous citez, ça veut dire ce que ça veut dire, un grand texte du silence. C'est-à-dire qu'il y a du langage ou du discible dans l'indicible. Alors, est-ce que je suis romantique? Vous citez aussi le tout parle de Hugo. C'est une idée romantique, hein. Bien sûr que l'immensité s'écoute, tout est une voix, etc. Toutes ces formules.
Même l'herbe.
Même l'herbe. Mais voilà, donc le silence ondulé de Lorca me parle plus que la recherche des vers silencieux de sa main, par exemple. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, des vers silencieux, vous voyez. Mais qu'il y ait une musique du silence, ça me semble très riche.
Ah, encore, vous voulez ajouter quelque chose
aussi, il me semble me souvenir qu'il se penche sur un arbre dans l'espoir de pouvoir repérer le silence de l'arbre qui pousse.
Mmh. Oui, et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Knut Victor qui s'est mis à l'écoute de tous les bruits souterrains, tous les bruits silencieux, les bruits qu'on n'entend pas, les petits bruits. Ces bruits fins, hein, dont parle Valérie. Et ça, tout ça est passionnant, parce que du coup, le silence n'est pas le contraire.
Oui. Du langage. Soro dit que, oui, pour vraiment le goûter, etc., il faut qu'il soit révélé. Et ce dont vous parlez, c'est justement ces petits bruits qui, infimes soient-ils, et au contraire, plus ils sont infimes, révèlent.
Révéleront le silence.
Le silence.
Et d'ailleurs, vous partez de là, vous partez du fait que le silence n'est pas le contraire du bruit.
Oui, c'est sûr.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
Avant de parler, Philippe Beck, de la lecture que Jacques Rancière fait de votre œuvre dans Le Sillon du Poème, j'aimerais d'abord revenir peut-être sur Opéradique, un ouvrage paru il y a peu chez Flammarion, 5 chants versifiés, chants avec un P sans doute, 5 chapitres, 5 arts, ou plutôt 5 personnages, prédance, musical, peinturage, pagisme, boustrophe et un épilogue. Opéradique comme opéra. Opération, un mot qui vous est cher, et opéradique emprunté à Rimbaud, que vous mettez au pluriel, hein, ça a son importance, qui lui-même l'avait emprunté au frère Goncourt, je crois. Un souffle ouvre des brèches opéradiques dans les cloisons, brouille le pivotement des toits, emprunté à Nocturne vulgaire. Qu'est-ce que cette tutelle, cet emprunt-là, dit du projet opéradique à proprement parler, Philippe Beck ?
Vous me demandez quel est le sens de la référence à Rimbaud ?
Par exemple.
De manière très générale, je ne crois pas à l'opposition entre Rimbaud et Mallarmé, disons.
Donc vous dites qu'aujourd'hui, par ailleurs, Mallarmé a perdu et oui, Rimbaud a gagné.
France,
ou en tout cas, Rimbaud,
une idée
un
de
malentendu oui, sur oui. Rimbaud, une aurait certaine... gagné face à Mallarmé.
Mais justement, c'est une certaine idée du silence aussi qui a gagné.
C'est
finalement,
dire...
le Rimbaud s'est tu, n'est-ce pas ? Rimbaud a renié le langage en poème, disons. Rimbaud a cessé d'écrire des poèmes, enfin, de façon très... pour parler de manière très prosaïque. Et donc le silence même de Rimbaud a fait l'objet d'un mythe, n'est-ce pas ? Alors on pourrait dire que c'est une guerre entre deux silences, n'est-ce pas, qui a eu lieu dans en l'occurrence le silence mallarméen, et encore une fois, je crois qu'il y a un malentendu à cet égard. Mallarmé avait plutôt de la défiance pour le silence, l'avare silence, et le silence de Rimbaud, qui est un silence de rupture, hein, un silence de... désenchantement à l'égard de l'alchimie du verbe, etc. Rimbaud est un quitteur, c'est quelqu'un qui a quitté la poésie. Mais je suis frappé que nombre de praticiens du poème aujourd'hui sont fascinés par le fait que Rimbaud ait cessé d'en écrire des poèmes. Non pas que je trouve normal d'en écrire ou facile ou naturel, mais tout de même...
Cesser d'écrire, c'est une question que vous ne vous êtes jamais posée.
Mais tout le monde se la pose, bien sûr. Et déjà commencé à écrire.
Ça, c'est autre chose.
Oui, mais on peut se taire longtemps avant de commencer à écrire. Lancer quelque chose. Alors, vous avez dit que c'est un livre monstrueux. Donc, j'ai pas pu ne pas le dire en grand, ou en gros, ou en épais. Et pourtant, c'est un livre fendu. C'est toujours la friction, la tension entre les arts, entre les sens, qui est à la fois montrée, souligner et chanter, voire déplorer, etc. Tout ce que vous voulez. Brèches opéradiques. Donc ce sont des brèches qui sont chantées, qui chantent, et qui sont aussi regrettées, combattues. Voilà. Et cette formule, elle est de Rimbaud. Il n'y a pas à nier qu'elle le soit. Et encore une fois, le Rimbaud qui m'intéresse, c'est ce Rimbaud qui croit au langage. Qui croit à la possibilité, non pas de tout dire dans le langage tel qu'il existe, mais qui croit à la possibilité de refaire le langage, enfin d'en chercher une nouvelle dimension. Et en tout cas, le langage n'est pas un réel mort. C'est une réalité à chercher et à voilà. Et la poésie n'est que cela. Hein. C'est-à-dire n'est que elle ne repose que sur l'idée que le langage n'est pas une donnée. Qu'il est quelque chose à parfaire, qu'il est une perfection, mais une perfection future. En ce sens, moi, j'étais très touché par une formule de Max Picard que vous citez. Il me semble qu'il ne faut pas l'oublier, ça, qu'il y a un élément chtonien, démonique, dans le silence. Quelque chose d'effrayant.
Oui. C'est ça qui prime aujourd'hui, peut-être, non?
Sur cet effroi que vous terminez aussi, Philippe Beck, est-ce que vous voulez bien nous faire lecture de Maugelet, un passage de Maugelet.
Maugelet est évidemment dédié à Rabelais, cet épisode extraordinaire qui frappe tout le monde. Mais c'est un épisode du silence, puisque les navigants, enfin les personnes qui se trouvent sur le bateau s'attendent à... voyager en silence, n'est-ce pas, quand ils quittent Papimani. Or, des sons surgissent autour d'eux sur la mer, non ? Maugelet. Il y a pré-son comme il y a pré-danse. Chacun est le pilote effrayé au banquet flotté. Il est parti de Papimani. Les sons ont le dessus battelé. Le banquet flotté, divisant, parle des immoraux de l'île, des mots dégèlent sur le chemin de l'eau. Au pays du départ, aucun feu ne chauffait luettes ou langues empesées. Les bouches étaient fermées par un hiver bloqué, à intériorité d'air passé, raidi et froidi. Mais sur mer, il y a des gens qui parlent en l'air, à côté du bateau ou sur lui. Ailleurs, naviguer entendent des sons épars, des pressons avant la danse, déglacé, dégelé. Qui bat la plaisante moquette? C'est la tête coupée d'Orphée qui continue des plaintes nagées, stimulées de vent moyen. Naviguant l'entend à côté comme en mai 1852, Taureau entend la scierie qui réduit la crue au son creux, galopant, déchireur, cloche venue des nerfs de la poutre, travaillée. Elle doit dompter les solives comme un Orphée bruté qui prépare des instruments. Les paumes coiffent le pavillon tendu. L'oreille hume l'air comme une huître écaillée qui entend des perles tressées discourir dehors. Femmes, enfants, hommes et chevaux, inaperçus, poussent des cris articulés. Où ? On dit à voiles et à rames, pour fuir quoi ? L'effrayé, son épée rouillée, rêve de cave sans parole, comme de romances de terre, loin de l'eau salée et d'archers de bagnolets et des parlants au fumier. Pilote calmant, c'est qu'au fond de la mer glacée bataillent les héros des mots, Wallenstein. Ils veulent trop, comme à Marignan ou au pays des peaux de martre. Tiques, torches et portes d'air, l'hiver est leur âge d'explication. Arismapien, géant, gargantua borgne et néphélibate, ils passent au milieu des neiges sombres qu'ils griffent et tiennent pour des nuées alpines, ont une guerre scolaire avec exclamation. Masses, armures et peurs d'attaque se lancent dans l'hiver. Les paroles gèlent en l'air sévère, sous l'œil des bêtes sphingées. Après la rigueur du froid, un temps libère les gelées. Les paroles fondent et des oreilles froides se dressent au dégel. Comme au bord de la montagne légale, il y a des phrases encore congelées. Qui va les refouetter, administrer la dégelée? Printemps est un bouclier ou un fouet?
Merci. Une lecture qui nous met tout de suite au travail, comme dirait Rancière, à votre sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée de dégel, justement, pour vous? La poésie, ce serait ça, d'abord, le dégel?
Ah oui, on a une conversation là-dessus, sur la possibilité de dégeler les mots. J'ai l'impression que Rancière dit que ne doute la possibilité de dégeler. Les mots ne gèlent pas et ne dégèlent pas. Je crois qu'il dit quelque chose de cet ordre, non ? Je suis en désaccord avec cette idée. Non, les mots peuvent geler, comme les cerveaux peuvent geler, comme les cerveaux peuvent s'arrêter. Ça s'appelle la sclérose. Bon, en ce sens, je serais beaucoup plus proche de Kafka. La mer gelée en chacun, n'est-ce pas ? C'est la mer d'un esprit qui n'est plus un esprit. C'est la mer d'une pensée qui n'est plus une pensée. Et ça peut s'appeler le gel, non ? Enfin, voilà. Et est-ce qu'un langage est capable de réveiller, hein, puisque vous parlez aussi de ça, du réveil des âmes ou des esprits, de la possibilité de réveiller les âmes, les esprits, les consciences, enfin bon, les pensées perdues dans la prose du monde. Est-ce que le poème en est capable ? Évidemment, je n'ai pas de réponse assurée à cet égard. Mais si l'orphisme désigne l'idée que le poème puisse renvoyer chacun à la puissance vivante de sa propre pensée, alors je suis orphique. Mais d'un orphisme relatif.
Après la rigueur du froid, un bouclier ou un fouet ? Sur cette question, justement, du bouclier ou du fouet ?
Le printemps en tant que tel ne nous protège pas nécessairement de l'hiver. Enfin, bon,
qu'est-ce que ça dirait de la langue, justement, que vous cherchez, ou du langage, pardon,
mais il ne suffit
que vous
pas
cherchez,
de chanter
la question du bouclier ou du fouet.
Oui. L'orphisme inconditionnel, pour moi, chante la puissance du langage en tant que tel, comme si le langage était encore une fois une réalité arrêtée, une réalité dont nous disposerions. Mais je crois profondément que nous ne disposons pas du langage, qu'il est toujours à conquérir ou à réveiller en nous. En ce sens, le printemps n'est pas là du tout un bouclier en tant que tel. Enfin, le printemps peut être hivernal, peut être la continuation de l'hiver. Et un certain dessèchement ou un certain refroidissement du poème peut paradoxalement mieux réveiller le langage en chacun que la poésie imaginée printanière. Enfin voilà. Bon, mais encore une fois, j'aime les fleurs, les herbes, et je ne suis pas un amoureux de l'hiver. Je souffre de l'hiver. Simplement, la poésie rumide dont je parle, c'est une poésie qui redonnerait sens à l'humidité. Et le printemps est aussi une période humide, non ? Enfin, une période dangereuse, périlleuse, où tout recommence. Je crois qu'il y aurait beaucoup à dire sur le printemps. Vous ne voulez pas écrire une histoire du printemps ?
Ça va venir.
Printemps, c'est le fondement du bucolique dont vous parlez.
Oui, oui.
La bucolicité, je vous cite, en fait. C'est ça. C'est une explosion, c'est une attente, c'est une explosion, c'est une rémission, enfin c'est des tas de choses, effectivement. Mm-hmm. C'est pas un hasard si Charles d'Orléans est appris encore aujourd'hui, dans les écoles.
Grand poète.
C'est intéressant d'ailleurs de voir comment, dans ce dernier siècle, l'appréciation des saisons a changé. Moi, j'étais d'une génération, où je suis d'une génération où le printemps, précisément, était la saison bénie, la saison souhaitée, la saison exaltée, etc. À la rigueur, un peu l'automne, à cause des récoltes, etc. Mais pas du tout l'été ni l'hiver aujourd'hui. Et pour un enfant, je pense que c'est l'été et l'hiver, non ? La plage et les sports d'hiver.
C'est l'hiver en tant qu'il promet la neige.
Oui.
Mais,
et Noël.
Ouais. Mais...
Je voudrais revenir, Philippe Beck, sur cette lecture que vous nous avez donnée, parce qu'il y a cette chose un peu particulière quand vous lisez, mais c'est peut-être une projection toute personnelle, hein, pour des tas de raisons. Mais c'est quand on vous entend lire, c'est comme si on entendait lointainement, dans la musique du poème, une musique qu'on n'entend pas quand vous parlez, et qui pourrait éventuellement être celle de la région dont vous venez. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne trompez pas.
Est-ce qu'il y aurait une musique du Bas-Rhin qui n'existe que dans la prise de parole, que dans le dire de votre poème ?
Mais j'ai été bercé autant par l'allemand que par le français, peut-être même plus, et par l'alsacien. Et donc l'idée du poème et l'idée de lire un poème, pour moi, est égal à l'idée de faire remonter cette accentuation, puisque l'allemand est une langue accentuelle. Bon, le français en réalité aussi, contrairement à ce qu'on dit, donc il y a intentionnellement dans la manière de lire, oui, il y a
intentionnellement.
Oui, intentionnellement.
Pour quelle raison?
Même arrivé d'écrire là-dessus, surtout en fin de vers. Je parle d'apodose alsacienne dans un ouvrage. Oui.
Pour quelle raison?
C'est un petit concept comique, mais j'en ai besoin. C'est un besoin physique. Je ne sais même pas tout de ça, de la raison de la coïncidence entre l'accentuation des mots, de chaque mot dans le poème et le retour de cet accent que je n'ai pas quand je parle. Mais j'en ai besoin pour lire le poème comme il est écrit. Comme si le poème était aussi quelque part un poème alsacien, oui. Oui. Ou en tout cas un poème...
Un poème qui pourrait être écrit avec accent ?
Il est écrit accentuellement, déjà, et il est lu, donc il doit l'être ainsi. Mais l'allemand, en général, est très, très présent dans... Je ne pense pas avoir appris le français sans tension constante avec l'allemand.
Qu'est-ce qu'il en reste dans votre langue poétique ?
Je ne saurais pas le dire comme ça rapidement, mais...
Pas rapidement, alors.
Je ne sais même pas si je pourrais en parler comme ça. Mais j'ai traduit de l'allemand. Je me suis intéressé à des auteurs allemands, comme Moritz, oui.
Benjamin,
que j'ai traduit, Benjamin,
aussi.
Oui. Écoutez, je n'arrive pas à répondre à votre question. Mais il faudra que j'y réfléchisse. Comme si la question de l'alsacien avait recouvert la question de l'allemand. Parce que l'alsacien, ce n'est pas exactement l'allemand non plus. Ça vient de l'allemand, mais c'est en France que ça a lieu. Alors, bon, voilà. Mais c'est parce que mon père est germanophone et que sa manière de parler le français a toujours été pour moi une manière de parler une langue étrangère. Le français était appris comme une langue étrangère, j'ai toujours ressenti comme ça. Voilà, donc le poème n'est pas un autre langage dans le langage en même temps. Mais il doit faire sentir quelque chose de cette étrangèreté de tout langage. Je vous tends une perche, là.
On va écouter une autre voix. Germanophone, celle-là. La voix que vous avez demandé à entendre ce soir, et c'est celle-ci.
In den Bäumen kann ich keine Bäume mehr sehen. Die Äste haben nicht die Blätter, die sie in den Wind halten. Die Früchte sind süß, aber ohne Liebe. Sie sättigen nicht einmal. Was soll nur werden? Vor meinen Augen flieht der Wald, vor meinem Ohr schließen die Vögel den Mund, für mich wird keine Wiese zum Bett. Ich bin satt vor der Zeit und hungere nach ihr. Was soll nur werden? Auf den Bergen werden nachts die Feuer brennen. Soll ich mich aufmachen, mich allem wieder nähern? Ich kann in keinem Weg mehr einen Weg sehen.
La voix d'Ingeborg Bachmann. Le poème Entfremdung, aliénation. Dans les arbres, je ne peux plus voir des arbres. Les branches n'ont pas de feuilles pour les maintenir au vent. Les fruits sont sucrés, mais dépourvus d'amour. Il ne rassasit même pas. Que va-t-il advenir? Devant mes yeux, la forêt prend la fuite. À mon oreille, les oiseaux restent quoi? Nulle prairie ne fait lit pour moi. Je suis repu du temps et j'ai soif de lui. Que va-t-il advenir? Dans les montagnes, les feux la nuit brûleront. Dois-je me mettre en route, m'approcher à nouveau de tout? Dans aucun chemin, je ne peux plus voir de chemin. Philippe Beck, c'est vous qui avez souhaité entendre la voix d'Ingeborg Bachmann. Je ne sais pas si c'est une voix que vous avez souhaité entendre, ou si c'est un texte en particulier, ou une œuvre. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez cette lecture?
Un geste, oui. Bon, en réalité, j'ai découvert les Bachmann d'abord par ses leçons de Francfort, puis par sa poésie.
Les leçons de Francfort sont les leçons qu'elle a pu donner lorsqu'elle occupait la chaire de poésie, donc à l'université de Francfort, à partir de 59. Oui.
Et ce sont des leçons passionnantes. Vous voulez que je vous en lise quelques extraits? Je trouve ça extrêmement suggestif. Avec un nouveau langage, on rencontre toujours la réalité là où se produit un saut moral et cognitif. et non là où l'on tente de renouveler le langage en lui-même, comme si le langage pouvait faire surgir de lui-même la connaissance et faire connaître de lui-même l'expérience qu'on n'a jamais eue. Là où l'on se borne à manipuler le langage pour donner l'impression de le renouveler, il a tôt fait de se venger et de démasquer l'intention de renouveau. Elle dit aussi, pour ce que veut l'écrivain, pour ce qu'il veut de lui, le langage n'a pas encore fait ses preuves. L'écrivain doit fixer les signes du langage dans le cadre des frontières qui lui sont tracées, et il doit, moyennant un rituel, le rendre à nouveau vivant et lui donner une démarche qu'on ne lui attribue nulle part ailleurs que dans l'œuvre d'art verbal, etc. Voilà, ce genre de formule me semble extrêmement suggestive, juste, et elle dit également « Seul le plus grand sérieux et le combat contre l'abus des expériences de grande souffrance et de la souffrance originaire pourraient nous aider à réveiller le public et à le faire sortir de sa léthargie fantastique. » Et alors, de quelle poésie s'agit-il ? Elle dit « Cette poésie devrait avoir le tranchant de la connaissance et l'amertume de la nostalgie pour pouvoir déranger le sommeil des hommes. »
Je vais passer du coq à l'âne, hein, littéralement, Philippe Beck. C'est, on a parlé de Mallarmé, on a parlé de Rimbaud, rapidement, de Bachmann, et c'est pour autant La Fontaine, hein, qui fait modèle aujourd'hui pour vous, et ça s'aggrave, dites-vous, ce qui voudrait peut-être dire qu'il s'agit d'un exemple coupable, j'imagine, peut-être que c'est lié à ce que, je sais pas, tout ce que Rousseau, notamment, a pu en dire sur cette séduction facile pour l'oreille, hein, chez La Fontaine. Qu'est-ce que vous y trouvez ? Et pourquoi donc cela s'aggrave-t-il ?
Bon, c'était une blague. Je ne me sens pas coupable d'aimer La Fontaine. Même si dans le milieu dit poétique, La Fontaine n'est jamais considérée. Si étonnant que ça paraisse. Je n'entends absolument jamais parler de mes contemporains de La Fontaine, dans le milieu poétique.
À l'exception de Marc Fumaroli.
Oui, non, mais je parle de...
Il place tout à fait.
Bien sûr, mais je parle de... Et puis j'utilise son édition savante. Mais non, je parle des praticiens du poème. Tout se passe comme s'ils ne tenaient pas compte de La Fontaine.
De quelle façon en tenez-vous compte, vous, Philippe Beck ?
Mais comme d'un poète futur. C'est-à-dire pas comme une autorité qui nous imposerait de le répéter. Je sens un langage vivant. Je lis La Fontaine, je sens que le vers est vivant, que sa pratique du vers libre ou du vers mêlé est vivante. Je sens que sa liberté à l'égard des interdits de Boileau est une liberté vivante. Il enjambe parce que c'est nécessaire, il n'enjambe pas parce que c'est nécessaire, etc. etc. Et le langage est vivant, et je pense, je suis sûr même, que les enfants le savent. Les enfants, si on ne leur impose pas d'apprendre La Fontaine par cœur de façon terrifiante. Comme tout le monde, j'ai appris l'épître dédicatoire à Monseigneur le Dauphin à 7-8 ans... J'ai eu plaisir à l'apprendre et j'avais peur de réciter ce poème, mais ça m'est toujours resté au fond, il m'a toujours hanté ce poème-là, qui n'est pas le plus original de La Fontaine. Je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire encore que mensongère contient des vérités qui servent de leçon, tout parlant mon ouvrage et même les poissons, etc. C'est pas le La Fontaine le plus... hétérométrique, délirant, etc. Mais bon, il y a déjà quelque chose de juste dans la position des sons à l'intérieur du discours. Voilà. Mais je ne vais pas commencer à vous faire une leçon sur La Fontaine, mais je suis intarissable sur La Fontaine.
La Fontaine a bien compris le problème qui fait écrire, hein, dites-vous. Quel serait le problème,
hein, oui.
Par ailleurs.
Mais il écrit à Saint-Évremond, dommage que je n'ai pas apporté une lettre splendide où il renvoie dos à dos les muses et les grâces. Il dit, voilà, il faut chercher à écrire ni en obéissant aux muses, ni en se soumettant au jeu frivole des grâces. Voilà. Il désigne comme ça une voie étroite qui est pour lui la voie la plus juste. Il avait une haute conscience de la nécessité d'écrire un poème vivant, c'est-à-dire de parler une langue vivante et de l'adresser nécessairement.
Quand vous dites le problème qui fait... écrire, Philippe Beck, quel serait le problème qui vous ferait écrire, vous ?
Mais ça nous renvoie encore une fois à Thoreau, à Emerson, à tous ces gens qui ont voulu éveiller ou réveiller, qui ont rêvé de ranimer les consciences endormies, etc., etc. Et c'est exactement le même problème qui se pose à La Fontaine. Chaque fois qu'il écrit une fable, naturellement, il essaye de... Et surtout, parce qu'il écrit aux âmes commençantes, c'est-à-dire aux âmes enfantines, qui sont déjà menacées de s'endormir, à quelles conditions faut-il écrire un poème charmant, hein, qui tient l'âme captive, ou plutôt attentive. Enfin, il a cette formule dans une fable que cite Joubert, d'ailleurs, grand lecteur de La Fontaine, en prose. Il était conscient du danger du poème, qui est de charmer, de bercer, donc de tenir l'âme captive. C'est le risque d'endormir l'âme. Et l'inverse, le risque inverse, qui est de l'éveiller trop, de l'inquiéter, de la tourmenter. Donc il avait nécessairement la conscience très aiguë de la difficulté d'écrire un poème juste, qui éveille sans trop enfermer dans des sons. C'est toujours le même problème, n'est-ce pas? Quand nous oublions les sons, nous oublions ce qui fait le langage, et quand nous rappelons les sons, quand les sons nous charment, nous risquons d'oublier que ces sons disent quelque chose et doivent nous dire quelque chose. C'est un danger constant que nous oublions toujours, et heureusement nous aussi. Mais voilà, bon, il y aurait tant à dire sur La Fontaine et sur ce La Fontaine future dont je parle, c'est-à-dire qui est encore à lire, comme peut-être Rimbaud est encore à lire, n'a pas encore été lu, etc.
Merci à tous les deux, Alain Corbin, Philippe Beck. C'est la fin de cette émission, ou presque. Je vous laisse la prolonger entre vous et sans moi. Alors, bonne nuit à vous.
Pour moi, il y a quelqu'un d'important, je n'en ai pas parlé, c'est Schiller. Mmh. Et Schiller était un lecteur de Théocrite, un lecteur de tous les idylliques, enfin, mmh, les bucoliques. Bon. Et cette tension qu'il y a entre l'idylle et l'élégie le conduit à proposer l'avènement d'une idylle sentimentale. Il parle d'idylle sentimentale, Schiller. Il faudrait inventer une idylle sentimentale, c'est-à-dire une idylle moderne, qui ne serait pas simplement une élégie sur une souffrance de ne plus être dans le premier paradis, enfin bon, mais une élégie, ou disons une disposition élégiaque qui permettrait néanmoins une certaine naïveté du chant dans la modernité. C'est ce dont rêvait Schiller. Et pour moi, cette matière moderne, sentimentale, je l'ai trouvée dans les contes des Grimm. Mmh. Ce qui m'a obligé, conduit, enfin, m'a donné le sentiment de devoir d'avoir à transposer cette matière en vers. Donc, il n'y a jamais une opposition entre l'âge moderne, bruyant, souffreteux, et le premier âge, enfin le...
Beaucoup ça m'aime.
Oui, mais bon, alors, Rousseau a été nommé tout à l'heure, mais je suis très étonné qu'il ne comprenne pas La Fontaine. Enfin, il y a peut-être beaucoup de mauvaise foi, parce que on a montré d'ailleurs qu'il utilisait constamment La Fontaine dans sa prose, enfin, de manière silencieuse. Mais La Fontaine, pour moi, c'est l'exemple même d'une synthèse de la naïveté, de la technicité, enfin, de la conscience réfléchie, des moyens, etc. Il n'a pas le désir d'être naïf. Enfin, bon, mon Dieu, il travaille naïvement à l'être. Enfin...
Poésie, ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Lucie Spindler pour la préparation, à Élise Leu pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci Alain Corbin et Philippe Beck. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités du soir sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. Mais tout de suite, c'est minuit et c'est les nuits de France Culture par Philippe Carmi.